l'économie de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Aimerait-on autant Mathilda ou Le Bon Gros Géant s'il n'avait pas dans nos mémoires les traits du dessin de Quentin Blake ? Roald Dahl le disait lui-même, ce sont les visages et les silhouettes qu'il a dessinés qui restent dans la mémoire des enfants du monde entier. S'il est surtout connu en France pour cette collaboration au long cours, Quentin Blake a illustré bien d'autres récits, dont certains écrits par lui. En 2012, dans le premier volet d'une série de deux documentaires diffusés dans l'Atelier de la création, Catherine Gilliardi se penchait sur le mystère de son trait et de ses aquarelles d'apparence si simple, mais d'apparence seulement. Dans son atelier londonien, plume à la main, Sir Blake livrait quelques secrets de leur fabrication, tandis que deux admirateurs, Joan Sfar et Daniel Maja, en éclairaient la subtile composition. Une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 23 octobre 2012.
Voilà. Mais l'important, c'est la chose importante, c'est de c'est d'imaginer. On peut presque toucher le ce corps, je suis en train de dessiner les jambes, mais ça, c'est... Et on ne peut pas prévoir exactement où se trouvent tous ces éléments décoratifs. Normalement, c'est la main qui dirige plutôt que la tête, je pense.
Quel est le premier livre que vous avez illustré?
C'est un livre que tu ne peux plus trouver.
C'était il y a
50 ans.
Non,
c'est pas vrai. C'est pas possible. C'était il y a 3 semaines. Ah, c'était il y a longtemps. Il s'appelait Un verre d'eau.
And you can't get it now because it's sold
out. Il n'est plus en vente
maintenant.
Depuis longtemps.
It was a lot of animal stories.
Il y avait plein d'histoires d'animaux.
And I liked that very much. That was the first.
J'ai beaucoup aimé dessiner ça.
Est-ce que tu as aimé être ami avec Roald Dahl?
Oh yes, very much.
Oui.
Yes, he was a very nice man. He was a bit frightening.
Il était un peu effrayant parce qu'il était beaucoup plus grand que moi.
And he could be very bad.
Il pouvait être de très mauvaise humeur.
But he was a very nice man actually.
Mais c'était un homme très gentil. Très enthousiaste lorsqu'il voyait mes dessins.
What he liked is teasing people. He liked that, and he used to.
Il aimait particulièrement taquiner les gens. Il se moquait de moi.
Of me, a bit.
Un peu.
But you knew that he was only just doing it for amusement.
Je savais que c'était juste pour rire. Parce qu'il y avait une lueur dans ses yeux quand il le faisait.
Before he finished a book, he'd never tell me about the story until he finished it.
But il ne me parlait jamais d'une histoire avant de l'avoir écrite. Il me disait. Oh, tu vas bien rigoler avec celle-ci. Parfois, il me disait, oh, Quint, tu vas avoir des problèmes avec celle-là. Il y avait toujours tellement de choses intéressantes à dessiner. C'était bien.
Quentin Blake, le bon gros géant de l'illustration jeunesse. Catherine Gilliardi, Nathalie Salle. Avec la participation de François Morel.
Il y eut quelques instants de silence dans la caverne. Enfin, Sophie reprit la parole. « Puis-je vous poser une question ? Le BGG essuya ses larmes d'un revers de main et posa sur Sophie un long regard pensif. « Vas-y, » dit-il. « Voulez-vous me dire ce que vous faisiez dans notre village la nuit dernière ? Pourquoi avez-vous glissé cette longue trompette par la fenêtre des enfants gauchers pour ensuite souffler dedans ?»«
Ah ! » s'écria le BGG en se redressant soudain sur sa chaise. « Voilà qu'on devient plus curieux qu'une fouine !» « Si tu veux vraiment savoir ce que je fais dans ton village, » répondit le BGG, « ben voilà, je souffle des rêves dans les chambres des enfants. »«
Vous soufflez des rêves ? Que voulez-vous dire ?»«
Je suis un géant souffleur de rêves, » dit le BGG. « Quand tous les autres géants s'en vont galoper sur les chemins pour avaler des hommes de terre, moi, je cours souffler des rêves dans les chambres des enfants qui dorment. De beaux rêves, de jolis rêves dorés. » Des rêves qui les rendent heureux.
Et alors, quelle tête a-t-il, ce bon gros géant, Johannes?
Oh ben, le bon gros géant, il a la tête de Roald Dahl avec les oreilles de Dumbo. Et on ne sait pas si dans son espèce, tout le monde a d'aussi grandes oreilles, mais enfin, en tout cas, lui, c'est le cas. Et il a des couleurs très... Il a toujours un pantalon vert, des trucs comme ça. Moi, ça me bouleverse de voir une petite fille qui fait 10 cm de haut, parce que c'est par rapport au géant, donc elle est sur la table, et puis il y a des bocaux autour, et puis on se doute bien qu'à part la petite fille qui est toute petite, le reste, on pourrait être dans le garage de Roald Dahl. Ça, le fantastique réussi, c'est quand même ça, c'est quand on change pas 50 éléments face au réel, il y a juste la taille de cette créature, et quand il travaille... Avec Roald Dahl, et je prends bien soin de pas dire qu'il travaille pour, quand il travaille avec Roald Dahl, il arrive à donner un visage au roman. On n'en veut plus d'autres ensuite. C'est très rare que ça fonctionne à ce point. C'est-à-dire quand, je veux pas être méchant avec les autres illustrateurs, mais quand tout d'un coup un livre de Roald Dahl est illustré par quelqu'un d'autre que Quentin Blake, eh ben on est déçu. Même s'il est bon, même s'il est on est déçu parce qu'on a l'habitude de ça. Ce couple-là, peut-être on le voit dans les illustrations de Téniel sur Alice au Pays des Merveilles. C'est très très rare que des illustrateurs collent à ce point à des romans. Là, je crois qu'on peut plus séparer. On va faire des adaptations cinématographiques de Roald Dahl. On sent toujours les dessins de Quentin Blake derrière. Donc, ce sont des dispositions juridiques qui font qu'on ne donne pas de droit d'auteur à un illustrateur. Mais pour moi, il est auteur au même titre que le romancier. Ça, c'est formidable. Il y a un article où on raconte comment Roald Dahl et Quentin Blake ont inventé les personnages de la girafe et du pélican. Et là, il se dessine lui et Roald Dahl de dos. Je trouve que c'est un dessin bouleversant. Ils sont debout tous les deux. Ils sont face à une table horizontale, donc c'est pas une table à dessin. Ils sont face à une table couverte de papier. Ils ont chacun un verre. On voit que c'est un verre d'eau. Ils sont pas très proches. Et Roald Dahl est très grand. Il agite la main, manifestement, il parle, il a une main dans la poche, et Quentin Blake a les deux mains dans le dos, presque comme s'il était l'architecte. Hein, il y a le maître d'œuvre qui vient et qui explique les plans à l'architecte. Alors, l'architecte, il entend ce qu'il va devoir faire. Et c'est joli de voir comment il se dessine vraiment, lui, en homme qui va travailler avec ses mains. Je trouve on voit ses deux mains, même si elles sont attachées dans le dos. Il est à la fois très respectueux, il danse un peu d'un pied sur l'autre, on voit qu'il réfléchit à ce qu'on est en train de lui dire. Nous, on sait bien que c'est lui qui aura le dernier mot. On sait bien que c'est le dessin qui interviendra à la fin.
Avec combien d'auteurs avez-vous travaillé ?
C'est encore une très bonne question. Je ne suis pas certain de la réponse. Il y a des auteurs avec qui j'ai travaillé de nombreuses fois, comme Roald Dahl, dont j'ai illustré une vingtaine de livres, ou Michael Rosen pour une dizaine de titres, ou encore John Yeoman pour 20 albums à peu près. J'ai aussi beaucoup travaillé avec Joan Aiken, qui est morte maintenant. Parfois, je n'ai collaboré qu'à un seul livre d'un auteur. Je suppose que ça doit faire une cinquantaine de personnes. C'est beaucoup. Mais c'est ça qui est intéressant, que quelqu'un t'envoie son histoire et que tu te demandes à chaque fois ce que tu vas en faire. C'est fascinant.
Au milieu de la plus grande, la plus noire, la plus boueuse rivière d'Afrique, deux crocodiles se prélassaient, la tête à fleur d'eau. L'un des crocodiles était énorme, l'autre n'était pas si gros. « Sais-tu ce que j'aimerais pour mon déjeuner aujourd'hui ?» demanda l'énorme crocodile.
« Non, dit le pas si gros. Quoi ?»
Vous êtes français?
Ouais.
Ah, vous êtes français, vous habitez à Londres. Et vous connaissez Quentin Blake?
Yes, I've read one of his. J'ai lu un des livres Roald Dahl.
De Roald Dahl?
Ouais.
Avec lequel?
Bon, on a lu les tweets.
Les tweets, c'est les deux gredins.
Oui, c'est ça.
C'est les deux gredins. Oui. Ils sont affreux, non?
Ouais. Après, les mamans ont acheté le grand livre là où il y a une partie de tous.
Ah oui.
J'ai le crocodile géant et tout, je ne sais pas encore lui.
L'énorme crocodile s'esclaffa, découvrant des centaines de dents blanches et pointues. « Pour mon déjeuner aujourd'hui, reprit-il, j'aimerais un joli petit garçon bien juteux.
»« Je ne mange jamais d'enfant, dit le pas si gros, seulement du poisson.
»« Oh, oh, oh !» s'écria l'énorme crocodile. « Je suis prêt à parier que si tu voyais, à ce moment précis, un petit garçon dodu et bien juteux barboté dans l'eau, tu n'en ferais qu'une bouchée. »«
Certes pas, » répondit le pas si gros. « Les enfants sont trop coriaces et trop élastiques. Ils sont coriaces, élastiques, écœurants et amers. »« Tu es un sale glouton, » lança le pas si gros. « Tu es le croco le plus glouton de toute la rivière. »
« Je suis le croco le plus audacieux de toute la rivière, » affirma l'énorme. « Je suis le seul à oser quitter la rivière, traverser la jungle jusqu'à la ville pour y chercher des petits enfants à manger.
Oh, »« Ça ne t'est arrivé qu'une seule fois, » grogna le pas si gros. « Et que se passa-t-il alors? Tous les enfants t'ont vu venir et se sont enfuis. »«
Oh, mais aujourd'hui, il n'est pas question qu'ils me voient, » répliqua l'énorme crocodile.
« Bien sûr qu'ils te verront, » reprit le pas si gros. « Tu es si énorme et si laid qu'ils t'apercevront à des kilomètres. »
L'énorme crocodile s'esclaffa de nouveau et ses terribles dents blanches et pointues étincelèrent comme des couteaux au soleil.
Vous êtes impressionné de le rencontrer?
Ouais.
C'est vrai? Pourquoi? Dites-le-moi, il n'écoute pas.
C'est que moi j'aime bien ses dessins, j'aime bien dessiner aussi. Et
il aime bien dessiner les affreux, hein, parce que dans les deux gredins, ils sont vraiment affreux.
Et le crocodile géant.
Oh, crocodile géant, raconte-moi le crocodile géant.
C'est comme un géant crocodile qui veut manger des enfants, mais tout le monde n'arrête pas de dire qu'il ne va jamais en attraper un. À la fin, l'éléphant l'envoie dans le soleil.
Tu peux me le décrire?
Il est grand, très très long et gros. Après, il a des dents acérées, des grandes dents acérées. Et il a comme des grosses écailles sur son dos.
Je sais que Quentin, venez nous voir, si oui. Vous voulez bien. Racontez-nous comment vous avez imaginé l'énorme crocodile de Roald Dahl. Comment vous vouliez le dessiner?
Il dit dans l'histoire que l'énorme crocodile avait des centaines de dents, je crois. Et si vous connaissez quelque chose des vrais crocodiles, ils ne sont pas comme ça. Il y a beaucoup de dents, mais pas tellement. Et ça me donne l'idée que c'était pas un vrai crocodile. C'est une sorte de crocodile qu'on voit dans un grand guignol, quelque chose comme ça. Alors j'ai dessiné toute une longue série de dents, et ils ne sont pas les dents pour manger les poissons et des choses comme ça. C'est comme un piège en quelque sorte. Okay. Ouais, c'est pour manger les enfants, pour attraper les enfants.
Trompette fila droit sur l'énorme crocodile et, rapide comme l'éclair, il enroula sa trompe autour de la queue de celui-ci et le tint suspendu en l'air. « Aïe, 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 lâchez-moi !» gémit l'énorme crocodile la tête en bas. « Lâche-moi, lâche-moi !»« Non !» rétorqua Trompette. « Je ne te lâcherai pas. On en a vraiment plein le dos de tes pièges subtils. » Trompette fit tourner le crocodile dans les airs, d'abord lentement, puis plus vite, de plus en plus vite. Toujours plus vite, on ne vit bientôt de l'énorme crocodile qu'une forme tourbillonnante au-dessus de la tête de Trompette. Soudain, Trompette lâcha la queue du crocodile qui partit dans le ciel comme une grosse fusée verte. Il alla si vite et si haut que la terre ne fut plus qu'un tout petit point au-dessous. Il passait en sifflant whiz dans l'espace, whiz, il dépassa la lune, whiz, il dépassa les étoiles et les planètes, whiz, jusqu'à ce qu'enfin, dans le plus retentissant bang, l'énorme crocodile fonce dans le soleil, tête la première, dans le soleil brûlant.
Et alors les deux gredins, décris-moi les encore les deux gredins.
Alors, ils sont tous les deux petits, ils ont un peu le dos tordu et en fait ils mettent de la colle sur les arbres pour rattraper les oiseaux. Et ils sont tous les deux vieux et l'homme
on
il a
dit horrible, barbe. Je crois, oui.
Ouais, ils sont horribles.
Il est sale, il a plein de choses dans sa barbe là, le gredin. Là. Ouais, ouais, il est ouais. Vraiment moche, hein. Ouais. Affreux. Ouais.
Non, mais moi je suis très très bien élevé, mais j'admets en même temps que dessiner des choses comme ça, c'est délicieux.
Commère Gredin. Commère Gredin ne valait guère mieux que son gredin d'époux. Ce n'était pas une femme à barbe, bien sûr, mais quel dommage, une barbe aurait caché un peu son effrayante laideur. Jetez un coup d'œil sur elle. Avez-vous jamais rencontré femme plus laide? Cela m'étonnerait. Détail amusant, Commère Gredin n'était pas vilaine dans sa jeunesse. Au contraire, elle était même jolie. Elle avait enlaidi en vieillissant. Comment expliquer cette transformation? Je vais vous répondre. La méchanceté et l'égoïsme se lisent aussitôt sur un visage. Et si un individu est méchant et égoïste tous les jours de la semaine pendant des années, il devient si vilain qu'il est impossible de le regarder sans frémir. En revanche, une personne bonne et généreuse ne peut en aucun cas être laide. Vous pouvez avoir un nez en pied de marmite, une bouche en accordéon, un triple menton, des dents de lapin. Mais si vous êtes bon et généreux, votre visage rayonnera et tout le monde vous trouvera beau. Rien de bon n'illuminait le visage de Commère Gredin. Elle marchait en s'aidant d'une canne parce que, disait-elle, elle avait des verrues sous la plante du pied gauche. Mais en vérité, sa canne lui servait surtout à frapper les chiens, les chats et les enfants. Elle avait aussi un œil de verre qui regardait toujours de travers.
Un dessin qui donne le sentiment d'être simple et qui est tellement sophistiqué que celui de Quentin, ça c'est éblouissant parce que les gamins ont le sentiment qu'ils peuvent le copier, donc ils sont pas impressionnés, ils y vont et en y allant, comme chez tous les grands, comme chez Ronald Searle, comme chez William Steig, comme chez Edouard Goret, en y allant, ils mesurent la complexité qu'il y a derrière. C'est tout l'inverse du dessin de Frimer. C'est-à-dire le dessin de Frimer fait semblant d'être compliqué, mais en fait il est fait par un singe. Et là on est face à quelqu'un qui a décidé de ne pas être impressionnant, qui a décidé qu'en quelques traits, on allait pouvoir venir jouer chez lui, et après, on découvre que c'est compliqué.
Bon, alors, voici devant... Je dessine... Je reste debout... c'est mon seul musculation, c'est de rester debout devant la table. Et c'est une table lumineuse. Et normalement, je mets le croquis sur cette table et puis je mets un feuille de papier aquarelle. Je vais chercher une feuille de papier.
Il y avait une chose quand j'avais été chez lui qui m'avait frappé il y a très longtemps. Hein.
Le dessinateur Daniel Maja.
C'était évidemment la table de travail qui est toujours le lieu du miracle. Hein. Et ça, c'est intéressant de voir sa méthode, comment par jets successifs, il utilise des papiers aussi qui sont à la fois transparents, ou plutôt translucides, mais pas trop, de telle façon de pouvoir garder la composition. On garde la composition, mais on redessine. C'est-à-dire que chaque dessin terminal est quand même un dessin de premier jet. Pas la composition, mais le dessin lui-même est toujours du premier jet.
J'arrive. Et c'est un papier
aquarelle français, arche fin. Bon, c'est pas trop compliqué.
Donc là, vous avez allumé la table lumineuse et on voit en transparence, pourtant ce papier oui. d'aquarelle est très très épais, hein. On voit en transparence le dessin, le croquis, oui, c'est ça, c'est un croquis là. Ce qu'on voit, cette femme qui nage avec son bébé.
Oui.
Il y a un poisson, donc ils sont dans l'eau.
L'encre de Chine.
c'est votre premier jet.
Oui. Et puis je l'ai fait, je crois, avec du roseau. Et ça, on ne peut pas commander un roseau d'un certain type. Il faut, on peut les couper un tout petit peu, mais on cherche, on essaie de trouver un qui est bien adapté pour le dessin devant vous. Et en quelque sorte, ce qui est intéressant avec le roseau, c'est on ne sait pas exactement le trait qu'il va faire. Et ça c'est stimulant. On peut le rater sans difficulté, mais je vais l'essayer. Ok. J'ai aussi un autre morceau de papier aquarelle juste à côté où je peux essayer. Bon, alors. Son bras gauche, ouais.
Et puis il y avait à côté la chose qui était très, très intéressante, c'était une feuille blanche dans laquelle il essayait sa plume. Parce que la plume, c'est quand même tout un art de savoir l'utiliser. Hein, ça bave, ça crache, ça fait plein de choses. Et donc, il y avait la manière comme si, c'est la barre un petit peu, il s'exerçait sur le papier avant d'entamer directement son dessin, parce que la force chez lui, c'est que finalement, c'est pas du collage, c'est pas un petit bout de truc qu'on met l'un à côté de l'autre, non, à chaque fois, il repart comme ça.
La tête de maman, et on est sous l'eau. Comme ça, on peut voir, ses cheveux qui peuvent avoir un mouvement dans le mouvement de l'eau, comme c'est en même temps entouré de sortes de rubans d'algues, qui ça c'est un élément tout simplement décoratif. Et voilà. Et voilà. Papier buvard. Maintenant, j'essaie le bébé. Peut-être que je trouve un roseau plus fin pour son petit visage. Non, ça ne marche pas.
Mmh.
Peut-être, enfin, c'est un peu différent que le dessin que j'ai dessous. Ça, c'est un pied assez mal dessiné, même. Voilà, et puis je veux ajouter quelques poissons qui... Maintenant, on voit peut-être le dessin.
Oui.
Et plus tard, ou je l'aime, ou je ne l'aime pas. Et si je ne l'aime pas, je recommence. Bon.
Donc c'est le même, mais c'est un autre. Si on regarde l'original, enfin l'original. Je ne sais pas s'il faut l'appeler l'original, le premier finalement. C'est tous des originaux.
Voilà. Il faut la... Est-ce qu'on peut le mettre là, très doucement? Ce qui est toujours un problème, c'est bien possible de perdre un peu de mouvement. Mais ce n'est pas mal, je crois. Hein. Et la maman, elle est devenue un tout petit peu plus sérieuse dans le dessin final. Mais le bébé, c'est un peu plus acceptable, je crois. Dans le croquis, là, il a des grands yeux un peu bizarres. Mais c'est toujours équilibré, ces éléments.
Le mieux pour les gens qui n'ont pas l'habitude de décoder un dessin, c'est de se dire que c'est comme une page de journal, qu'il y a une composition, il y a de la lisibilité, il y a ce que ça nous raconte. Et dans ce domaine-là, au même titre qu'on pourrait le dire pour un japonais, Quentin Blake, c'est vraiment un grand maître. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui il va pas lâcher un dessin s'il n'y a pas la composition parfaite, s'il n'y a pas l'équilibre entre ce qui est blanc, ce qui est silhouetté dans le personnage et tout. Donc cet aspect rapide que donnent ces dessins, c'est un choix pour que les jeunes lecteurs se les approprient, pour qu'ils sentent que c'est vivant, mais ça n'enlève rien à la rigueur qu'il y a derrière. C'est très japonais, la manière dont il bosse, en fait. C'est-à-dire qu'il réfléchit beaucoup avant de faire la chose, et quand il fait la chose, il la fait dans la tension et dans la rapidité, et quand ça lui plaît pas, il l'affiche à la poubelle et il recommence. Et il utilise, quand on va chez lui, il fait exprès d'utiliser un papier très épais sur sa table lumineuse pour pas voir très précisément ce qui décalque. Comme ça lui permet d'inventer le dessin, de pas être en train de refaire, pas être en train de mettre au propre une esquisse, mais l'esquisse transparaît à peine sous son travail, donc il la réinvente, donc il est réveillé. Il y a rien de pire qu'un dessinateur endormi.
Quel est votre dessin préféré parmi ceux que vous avez fait?
That's a very difficult question.
C'est difficile comme question. C'est celui que j'ai fait hier.
I always hope I'm getting better.
J'espère que je m'améliore tous les jours.
But so and doing some new thing is always interesting.
J'aime essayer de nouvelles choses.
It's hard to tell what is.
Mais c'est difficile de dire quel est mon meilleur dessin ou mon dessin préféré tant qu'il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps.
I look at books I've done and I don't often sometimes I think.
Parfois quand je regarde les livres que j'ai faits, je me dis ça je l'ai bien fait, ça j'aurais pu le faire mieux, mais c'est trop tard maintenant.
Le chat ne sachant pas chasser. À mesure que les jours passaient, le chat montrait de plus en plus d'entrain et les souris s'en réjouissaient. Chaque nuit, lorsque le chat dormait profondément après s'être dépensé sans compter pour faire régner l'ordre dans le moulin, les souris se réunissaient pour fêter leur succès. Les plus jeunes montaient et descendaient le long des échelles en poussant des cris de joie, tandis que les autres s'installaient dans les poches des tabliers pendus au mur pour applaudir le spectacle. Et les plus vieilles pensaient que, de leur temps, on s'amusait bien moins qu'à présent.
Justement, d'ailleurs, si on regarde ce livre, Le chat ne sachant pas chasser, qui est une collaboration, il y en a eu beaucoup d'ailleurs, entre Quentin Blake et John Newman, un auteur pour jeunesse en Grande-Bretagne. Il y a des dizaines de souris dans ce livre et elles ont chacune une expression différente.
À mon avis, il y a plus que des dizaines, si vous voulez bien compter.
C'est vrai, j'ai pas compté.
Il y en a tellement. On doit arriver à... Oui, regardez. On doit arriver quand même à la centaine. Maintenant, ce qui est formidable, c'est effectivement chaque petite souris a sa particularité, un peu comme dans les grandes foules de Sempé. Chaque personnage, tout en étant compris dans une foule, a son individualité et ses soucis propres. Et là, c'est pareil. On voit qu'elles sont très différentes, même s'il y a des effets de répétition, bien sûr. Mais quand même, et surtout, c'est la vivacité. Je suis surpris sans cesse avec Quentin. C'est pas cette capacité de faire que les éléments qu'il dessine, ils sortent de la page. Quoi. C'est la vie en dehors de la page. Ils sortent de la page, ils partent. Et ça, c'est rare. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on peut décrire ? C'est un moulin. Hein. Il y a une échelle, il y a une pelle. Et puis, dans ce moulin, il y a tout un tas de petits éléments qui sont remplis de petites souris qui ont chacun leur individualité, qui se regardent, qui sautent, qui dansent, qui font la sarabande, enfin, comme il décrit d'ailleurs, je crois que... Chaque nuit, lorsque le chat dormait, profondément, après s'être dépensé sans compter, pour faire régner l'ordre dans le moulin, les souris se réunissaient pour fêter leur succès. Donc, avec une simple phrase comme ça, qui n'est pas grand-chose, regardez ce qu'on en fait. Ça, c'est l'art du dessinateur, quand même. Sans effet. Regardez les couleurs, c'est à peu près toujours les mêmes. Elles sont réparties quand même très astucieusement. Et en fait, à partir d'une gamme simplement des ocres et des marrons, vaguement un petit peu de gris, regardez toute la variété de ce qu'il peut donner. Ça, c'est l'art de l'aquarelle. Il n'y a presque rien.
Normalement, je le laisse à sécher doucement, mais pour cette expérience, voilà. Maintenant, j'ai un broc de l'eau, et c'est de l'eau, tout simplement. Il n'y a pas de couleur. Et je le mets par-ci, par-là, sur le corps.
Ça crée des ombres.
Et puis... de l'aquarelle, ça c'est un bleu. Un sort de... un bleu vert. Couleur assez sous-marin. Alors, il y a un mouvement de l'aquarelle sur le corps qui, j'espère, qui peut suggérer le mouvement sous l'eau.
Le matériau qu'il utilise, c'est l'aquarelle. Donc, il n'y a rien de plus traditionnel et de plus vieillot que de l'aquarelle. Ça se fait vite. Tant que c'est pas sec, on peut travailler. Dès que c'est sec, on peut pas revenir dessus. Donc le temps d'exécution d'une aquarelle, par définition, peut pas excéder le quart d'heure.
Et ça, c'est quelque chose. C'est impossible de l'organiser parfaitement. C'est encore cette situation de jongler avec l'aquarelle et de l'espérer que, avec un peu d'expérience qu'on a fait plusieurs fois, on apprend comment le faire avec un peu de chance.
C'est-à-dire que vous avez mis de l'eau, quand vous avez mis l'eau sur le corps dessiné à l'encre, vous ne l'avez pas mis au hasard, l'eau.
Ce n'est pas tout à fait. C'est un accident organisé.
En fait, la question qu'on se pose quand on colorie à l'aquarelle, on oublie la couleur, on se demande d'où vient la source de lumière. Si on regarde objectivement sur ce dessin, la source de lumière, c'est censé être la lampe. Or, en fait, la lampe est sombre. La source de lumière, c'est le blanc du papier. Et ça, ça éclaire tout ça. Si on regarde la robe de la grand-mère, il n'y a pas moins de 5 ou 6 valeurs dessus. Il n'y en a pas 2 qui ont la même chromie, et il n'y en a pas 2 qui ont la même intensité de lumière. Et il réussit à faire chanter tout ça, il réussit à donner une unité dans tout ça. Et ce qui est le plus fort, c'est que l'ensemble de l'image n'a pas dû être construite avec plus de 3 ou 4 couleurs différentes qu'il a mélangées, dans lesquelles il a mis de l'eau. Et évidemment, ça marche quand on n'y pense pas. Lui, il est dans l'idée d'où vient la lumière, comment je colorie, et bon, tout ça a l'air de faire partie du même... Le jaune qu'on va voir sur le sol, qui est censé nous rappeler la lampe, il va chanter un petit peu sur la partie gauche de la robe de la mamie. À droite, on a affaire aux couleurs froides, on a affaire aux ombres. La couleur chaude qu'il met sur le divan, il veut qu'on la retrouve dans les rideaux. On la retrouve un peu dans le visage, mais pas trop, parce que le visage, il a des bouts des cadres, des tableaux qu'il y a autour. Il y a tout ça. Alors bon... Tout ça, ça fait que c'est une image, c'est une chose, c'est pas plein de couleurs. Il s'arrange aussi, il m'avait donné des lois. La première, ne jamais colorier dans les traits. La deuxième,
donc dépasser.
Ne jamais colorier dans les traits. On n'est pas là pour redire. La couleur vient amener une information qui n'est pas l'information du dessin à la plume. On n'est pas là pour redire ce qu'on a fait à la plume. La deuxième, ne jamais donner une chose sa vraie couleur. Parce que voir un ciel bleu et faire un ciel bleu, c'est s'exposer à perdre face à la photographie. Tandis que voir un ciel bleu en faire un ciel rose, ça indique qu'on a vu du rose là-dedans et ça va changer tout le rapport. Et donc, on est dans un statement, on affirme quelque chose.
Vous avez les couleurs préférées, Quentin ?
Oui, je crois. Oui, il y a certains verts viridiens. Il y a des couleurs de terre qui sont intéressantes. Il y a le jaune de Naples qui est très utile. Il y a certains bleus, il y a Antwerp Blue, c'est bleu d'Anvers, je crois. Et plusieurs différents noirs. Il y a des gris et des noirs qui sont très, très intéressants, je crois, avec tout le reste. Mais c'est le mélange de tout. Qui fait la tâche.
C'est ça, c'est le mélange.
Je ne sais pas si c'est le fait de naître, d'être à Londres, d'être chez les Anglais. Bon, enfin, c'est les grands aquarellistes, les Anglais. Donc, il y a quelque chose qui est presque génétique, quoi, pour la plupart des dessinateurs anglais par rapport à l'aquarelle, ou des gens qui ont vécu en Angleterre, comme si, je ne sais pas, l'humidité régnante. permanent plutôt avait créé cette capacité de jouer avec l'eau. Mais c'est vrai qu'il y a des scènes de pluie par exemple qui sont formidables. Il y a rien quoi, il y a quelques jets comme ça pour illustrer les gouttes, et puis il y a ce petit tremblement comme ça au sol qu'on imagine très bien l'atmosphère londonienne. Regardez là, il y a presque rien quoi.
Yes.
Est-ce que les cacatoès, le livre que vous avez fait, était coquin?
Yes, no, I like them.
Ah oui, j'aime beaucoup les cacatoès.
That is one of my favorite books, I think.
C'est un de mes livres favoris.
Oh, there it is.
Ah, le voilà.
And it's really, I mean, you could think it was a book that to teach you how to count.
On pourrait croire que c'est un livre pour apprendre à compter, mais pas du tout. C'est plutôt un livre pour apprendre à se cacher.
Oh, here it is. It exists in French as well. There it is, Les Cacatoès.
Voilà, en français aussi.
Can you read French?
Qui sait lire le français?
No. Well, we'll read soon. Who can?
Le professeur Dupont avait dit cacatoès. Il en était très fier.
About chaque matin, I think it said.
Chaque matin,
il sautait de son lit. Il prenait une douche et se brossait les dents. Comme d'habitude. Il s'habillait et nouait sa cravate. Comme d'habitude, il chaussait ses lunettes.
comme d'habitude, puis il descendait au rez-de-chaussée.
Can we work the system to find the portfolio of originals for cockatoos?
Yeah.
Les cacatoès que vous avez dédiés à vos amis français, dans l'édition française.
On va chercher, nous avons ici tous les archives, il y a les originaux en folio. C'est les originaux de peut-être au moins 200 livres. Et autant que possible, j'ai gardé non seulement les originaux qui sont imprimés dans le livre, mais les dessins préliminaires, les crayonnés et plusieurs des rejets. Et là, c'est toute l'histoire d'un livre. Ah, voilà. That's lovely. If we can open that. Celui-ci, c'est la totalité des originaux, les dessins finaux en couleur. Alors comme ça, on peut voir. Voilà, ça c'est le dessin pour la couverture, mais sans titre.
Donc on voit c'est quoi, c'est une plante exotique?
Oui.
C'est une plante qui n'existe pas, mais dans l'imagination de Quentin Blake.
Exactement.
Avec plein de feuilles différentes d'ailleurs, toutes sortes de feuilles, et puis elle zigzague, et elle se divise alors en plusieurs, on va pas appeler ça des branches, mais en tout cas plusieurs tiges comme ça, et sur chaque tige, il y a un cacatoès, et ils sont tous différents.
Dix,
il y en a
là,
ah oui, il y en a
à gauche,
qui, lui, sur notre...
un tout petit. Et là au centre, branche. Le professeur Dupont, qui est sans doute très intellectuel, mais en même temps, dans quelques aspects un peu limité, qu'on voit...
Il a l'air perplexe.
On a la suite. Oui. Il reste perplexe pendant tout le livre.
Malgré ses sérieuses lunettes.
Oui, il est en train de gratter sa tête.
D'ailleurs, c'est des binocles qu'il a sur les yeux. Oui. Il est très anglais, votre professeur Dupont, Quentin Blake.
Oui, mais celui-ci, c'est un livre qui existe entre nos deux pays. Quoi. Moi, j'avais l'impression, j'avais envie de faire un livre avec un goût assez français. Au moment de son apparition, les journaux français disent « Ah, l'humour britannique !» Tellement british. Alors, c'est une sorte de mélange.
Il pénétrait enfin dans la serre où se trouvaient ses cacatoès, tous les 10, et comme chaque matin, le professeur Dupont ouvrait les bras en s'écriant « Bonjour, mes petits amis emplumés !» Tous les matins, il disait exactement la même chose. Le jour vint où les cacatoès se dirent qu'ils deviendraient fous s'ils entendaient ne serait-ce qu'une fois encore le même refrain. Ils décidèrent de jouer un tour au professeur Dupont. Les uns après les autres, ils s'échappèrent par un carreau cassé qu'ils avaient découvert dans un coin de la serre. Le lendemain matin, le professeur Dupont pénétra dans la serre et ouvrit les bras. Il n'y avait plus de cacatoès. Où donc étaient partis tous ces oiseaux ? Le professeur Dupont entra dans la salle à manger. Pas de cacatoès. Il entra dans la cuisine. Il y vit Hortense, la cuisinière, qui lui faisait cuire un œuf à la coque pour le petit déjeuner. Mais toujours pas de cacatoès. Il regarda dans la chambre. Pas de cacatoès. Il regarda dans la salle de bain. Pas de cacatoès. Il regarda dans les petits coins. Pas de cacatoès. Et braqua une torche dans le grenier, pas de cacatoès. Il grimpa même sur le toit, pas de cacatoès.
Il regarda dans le garage où se trouvait sa voiture, toujours pas le moindre cacatoès. Il descendit à la cave. Mais non, il n'y avait pas de cacatoès. Le professeur Dupont en avait la tête à l'envers. Ses cacatoès étaient introuvables. Où diable s'était-il caché?
Bon, alors les cacatoès sont là.
Sont là.
Ah, dis donc, tous ces objets qui sont sur les étagères dans la cuisine.
Ils ne sont pas, ils ne sont pas proprement dit cachés, mais il faut les chercher en même temps.
C'est ça, on ne les voit pas du premier coup d'ailleurs.
Oui, hein, c'est ça.
Et puis le professeur Dupont, il ne les voit pas du tout.
Non. C'est au-delà de ses capacités intellectuelles. Bon, les cacatoès sont de plus en plus dans chaque double page du livre.
Mais ils ont aussi des formes et des tailles différentes. Leurs becs sont différents. Et vous reproduisez à chaque fois
exactement
tel cacatoès selon sa personnalité.
L'origine de ce livre, c'était, j'avais envie de faire un livre parce que j'aime dessiner les perroquets, les cacatoès, des oiseaux comme ça. Et j'avais l'idée d'un monsieur qui avait une troupe d'oiseaux comme ça. Mais je ne savais pas l'histoire elle-même. Mais enfin, j'étais en France et j'ai cherché une maison à acheter à ce temps-là. Et je me trouvais dans cette maison, à La Trembla, dans le Charente-Maritime. Et nous avons passé partout dans la maison, même dans le grenier, où il y a une ligne de valises là. Et comme une sorte d'inspiration, j'ai pensé de faire entrer mes cacatoès dans cette maison.
Alors là, il regarde sur le toit maintenant, professeur Dupont. En anglais, on a le texte, donc là.
Even, he climbed up on the roof. Il a monté même sur le toit, mais les cacatoès n'étaient pas là. Mais pour nous voyons, c'est évident qu'ils sont là, cachés derrière les cheminées. Il y en a 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. 7.
7. Et à ce moment-là, il y en a 7.
On ajoute encore un.
À chaque fois.
À chaque fois.
Et là, je vois que vous avez fait une flèche dans votre croquis, votre crayonné, où le 7e, effectivement, vous dites non, je vais le changer d'endroit.
Oui.
Et vous le montez dans la cheminée. Et lui, il est complètement dans une cheminée.
Oui.
Sur le toit de la maison du professeur Dupont.
Le professeur Dupont n'endormit pas de la nuit. Le lendemain matin, il sauta de son lit, prit une douche, et se brossa les dents comme d'habitude. Il s'habilla, noua sa cravate comme d'habitude, il chaussa ses lunettes comme d'habitude, et il descendit au rez-de-chaussée. Le professeur Dupont pénétra dans la serre. Tous ces cacatoès étaient revenus, tous les 10. Le professeur ouvrit les bras en s'écriant « Bonjour, mes petits amis emplumés !» Il y a décidément des gens qui n'apprennent jamais rien.
Il a aussi, je vais dire un gros mot, je suppose qu'en anglais ça se dit de manière plus élégante, mais il a une manière à lui de dire le bordel. Et ça, j'y suis très très sensible parce que je suis pas un garçon très rangé, mais peut-être comme chez le dessinateur de Snoopy, la manière dont ces personnages sont toujours mal coiffés, débraillés, ils ont toujours un sourire de côté, ils sont à deux doigts de la goutonner, et en même temps ils ont de l'élégance, ce qu'un Français saurait pas faire. Moi, quand je fais une goutonner, c'est sale. Lui, quand il est anglais, même la morve est élégante. Et ça, je trouve ça formidable. On a toujours envie d'être à leur place quand ils mangent, quand le petit a l'air d'avoir mal au ventre et qu'il devient tout vert, et on voit que c'est fait d'une seule main. On voit que tout d'un coup, on se dit pas, tiens, il a fait d'abord son trait de plume et puis ensuite il a mis la couleur. Là, le petit est barbouillé parce qu'il a mangé trop de gâteaux, alors il a le visage vert. Et ça me rend très heureux de, et puis ça met le moral. Sacrée sorcière, c'est un de mes préférés. Sacrée sorcière, c'est un de mes préférés parce que là, Roald Dahl parle vraiment de son héritage d'Europe du Nord. Il est avec sa grand-mère, qui était une dame un peu virile, qui fumait le cigare et puis qui savait comment on se battait contre les sorcières. Et lui, Quentin Blake, illustre ça avec toute l'élégance quand on dessine la grand-mère d'un copain, parce qu'il sait pas comment elle était, donc il se l'invente un petit peu. Il invente ce que c'est que les sorcières. On voit bien que la sorcière, c'est une executive woman qui cache derrière sa vitalité des tas de choses qui vont faire beaucoup de mal aux enfants, et la grand-mère, c'est un refuge. Alors pendant qu'il y a ce congrès mondial des sorcières, des enfants vont être changés en disant, voilà, comment reconnaître une sorcière? Ses griffes sont cachées par des gants. Elle a un nez très particulier. Elle a une tête chauve avec gratouille de la perruque. Elle a une perruque, elle a un sac à main sinistre, des pieds carrés sans orteils et de la salive bleue. Voilà. Et avec tout ça, il y a un dessin qui a l'air de faire rire, mais dans le contexte du roman, ça devient grotesque, ça devient effrayant, puis on sait qu'elles veulent vraiment manger des enfants. Donc, dans ce récit, et les dessins y participent, il réussit à nous faire croire qu'il y a vraiment des nanas qui veulent manger les enfants. Il traite mal les enfants, Roald Dahl, dans ses histoires. Parfois, ils sont torturés, parfois, ils deviennent énormes, parfois, ils deviennent tout petits. Là, il y en a un qui est tellement pénible qu'il se retrouve transformé en souris, puis le petit héros aussi. Donc, il y a une souris sympathique et une souris idiote. Et ces souris-là vont essayer d'empêcher le complot des sorcières avec la puissance d'une grand-mère. Et il arrive à se débrouiller pour qu'on se sente bien avec la grand-mère et pour que les sorcières fichent la trouille. Là, elles fichent quand même énormément la trouille. Et foutre la trouille avec un dessin comique, ça, c'est très réussi. Il dit, c'est pour de vrai. Il dit, une mamie, elle va fumer comme ça. Donc, vous voyez, donc à l'étage d'en dessous, des sorcières qui se réunissent, elles vont se réunir comme ça. Puisqu'on a admis la grand-mère, on va admettre les sorcières. Et il nous le vend comme ça.
Pourquoi Quentin Blake et Roald Dahl, ce couple a-t-il si bien marché, Johan Sarr?
Je crois qu'ils ont compris à quel point la littérature pour enfants était une chose sérieuse. Ça, c'est une phrase que je répète tout le temps, que les adultes lisent pour se distraire alors que les enfants souhaitent se construire, donc ils prennent beaucoup plus au sérieux ce qu'on raconte. Ils écrivent, Goscinny faisait ça aussi, ils regardent pas les enfants de haut, ils se disent pas qu'ils écrivent pour des enfants. Ils ont 8 ans quand ils racontent les aventures d'un héros de 8 ans. Et c'est pas plus compliqué que ça. Et quand c'est Mathilda dont les parents sont idiots, ils sont des petites filles dont les parents sont idiots.
Quel est ton livre préféré?
C'est difficile aussi de répondre à cette question. Je peux te donner deux réponses. J'ai aimé illustrer le BGG, le bon gros géant.
That was one of my favorites. And you know, it was one reason why I liked it because the character is so interesting.
Une des raisons, c'est que c'était un personnage vraiment intéressant et difficile à faire.
Difficult to do, and sometimes if you're doing something that's quite hard,
and parfois quand on fait quelque chose de difficile, on aime encore plus le faire. J'ai dû refaire mes dessins encore et encore pour arriver à ce que je voulais. L'autre réponse à ta question, c'est le dessin que je viens juste de faire. Je crois qu'il est bientôt l'heure de se quitter. Je vous ai amené un de mes derniers livres. Il est publié en français et en anglais. C'est une fable, l'histoire de cette femme un peu magique.
She's got a coat with pockets all over it.
Qui a un manteau avec plein de poches partout.
So she fishes into the pockets and all kinds of things come out.
Elle en sort toutes sortes de choses.
It's a book that's got a rhyme that goes all the way
through. C'est un livre en vers.
So in English it's called Angelica Sprocket's Pockets and she's called that to rhyme with pockets. But of course pockets in French is poche, so it had to be les fabuleuses poches d'Angélique Brioche. Il faut trouver un nom qui peut rimer avec les pockets ou poches. Pour la traduction, il y a très peu de mots, mais c'est un petit poème en quelque sorte. Et s'il y a peu de mots et s'il faut rimer, c'est un cauchemar. Et par inadvertance, la traductrice française elle a fait une traduction en prose. Qui ne marche pas du tout. Non, c'est tout à fait parfait, mais il ne rime pas, ce n'est pas un poème. Et j'ai des amis qui parlent français, et ensemble, nous avons fait une sorte d'équipe de traduction pour faire
Faire un poème.
Par exemple, there's a pocket for mice and a pocket for cheese. And a pocket for hankies, in case anyone feels they're going to sneeze. Ça, tout simple traduction ne marche pas. Alors, qu'est-ce que nous avons? Peut-être que nous pouvons trouver une poche pour les souris, une pour leur fromage favori, une autre poche en cas d'urgence, avec des mouchoirs assortis.
There's a pocket for all kinds of umbrellas, for when it begins to rain, and another one with swimming costumes and towels, for when the sun comes out again.
Nous aimons Angélique Brioche, avec son manteau plein de poches. Quand il pleut, il y a une poche pour toutes sortes de parapluies, et une poche à serviettes et un maillot de bain, pour profiter des éclaircies.
Ok, au revoir, merci bien. À la prochaine fois.
Merci à Quentin Blake, à Johan Sfar et Daniel Maja, aux enfants et enseignants de la Bousfield School à Londres. Merci à Cécilia et Nikki, assistantes de Quentin Blake, à Christine Baker des éditions Gallimard et à Hélène Verlet. Merci à Thomas Baumgartner. Lecture de Roald Dahl, Quentin Blake et John Yeoman. François Morel. Attaché de production, Inès De Bruyne. Coordination, Irène Omelianenko. Prise de son et mixage, Claire Levasseur avec Philippe Etienne. Quentin Blake, le bon gros géant de l'illustration jeunesse, un documentaire de Catherine Gilliardi, réalisé par Nathalie Salle.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 23 octobre 2012. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.